Rétine, regardez l'entreprise autrement.
Bonjour à tous, vous écoutez Rétine, le podcast du CJD, le lieu où l'on défriche des idées, on mène des expérimentations et on regarde l'entreprise autrement. Pour cette première saison, nous vous proposons une série d'interviews avec des personnalités enrichissantes et inspirantes autour de l'économie, l'entrepreneuriat et les questions de transition sociétale et écologique. Nous recevons aujourd'hui un nouvel invité.
Une révolution positive, alimentée par l'ingéniosité humaine, est en marche partout en France. Elle réinvente nos modèles économiques et sociétaux, mais aussi nos schémas de pensée. L'arme secrète de ces innovateurs français est le Jugad, un état d'esprit agile, frugal et inclusif qu'incarnent les entrepreneurs d'Inde, de Chine, du Brésil ou encore du Kenya. Dans un monde de plus en plus complexe, les 6 principes de l'innovation Jugad sont l'antidote à l'état de crise permanente dans lequel sont plongées les nations occidentales. Dans un livre comportant plus de 100 exemples inspirants, de mise en pratique du Jugad, Navi Raju, qui a introduit le concept il y a 10 ans en France, nous parle de ces collectivités et entreprises visionnaires qui co-construisent les territoires durables et solidaires de demain. Nous recevons aujourd'hui Navi Raju. Bonjour Navi.
Bonjour Lionel.
Écoute, je suis particulièrement content de te recevoir aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, te présenter rapidement, alors tu es quoi? Tu es français, indien, américain? Tu as vécu 22 ans en Amérique? Comment tu te définis? Comment tu te situes? Où es-tu?
En ce moment, j'habite en France, mais je suis né et j'ai grandi à Pondichéry, une ancienne colonie française dans le sud de l'Inde. Et je suis venu faire mes études supérieures en France entre 1989 et 95. Et ensuite, j'ai immigré aux États-Unis où j'ai vécu 22 ans. Et en 2021, j'ai décidé de quitter l'Amérique et revenir vivre en France.
Alors, tu es informaticien de formation?
Exact. Informatique de gestion, ils appelaient ça dans le temps.
Et donc, on te connaît plus particulièrement en France parce que c'est toi qui as introduit, il y a quelques années maintenant, la notion de Jugad. Alors, c'est l'innovation frugale, on l'appelait à l'époque. Aujourd'hui, tu publies, tu fais une nouvelle édition de ce livre dans un contexte un peu particulier en France, avec cette notion de sobriété, de fin de l'abondance, de péril climatique. Pourquoi cette deuxième édition?
Cette deuxième édition, en fait, a été motivée par ce que j'ai observé durant Covid, où en France, comme tu te rappelles, il y a eu une grande pénurie de masques, de respirateurs, et on a vu dans les territoires des collectivités et des entrepreneurs se mobiliser et partager, mutualiser leurs ressources pour pouvoir fabriquer rapidement des masques et des respirateurs, alors qu'au niveau national, ni l'État, ni les grands groupes étaient capables de le faire. Donc, je voulais déjà mettre en valeur cet état d'esprit agile, résilient, adaptable, qu'on a démontré au niveau des territoires durant Covid. Et depuis l'an dernier, effectivement, il y a un autre facteur qui est entré dans la scène économique et politique, qui est la sobriété énergétique avec la crise en Ukraine. Alors, c'était sobriété énergétique l'an dernier. Cette année, on parle de la crise de l'eau. Donc, on va parler de sobriété hydrique. Et l'idée, c'était effectivement de publier un livre qui met en valeur non pas les problèmes. Les problèmes, on le sait déjà, hein, ça va être la raréfaction des ressources naturelles. Ça va être un monde qui devient de plus en plus complexe avec des crises qui s'enchaînent. On parle même de permacrise maintenant. Donc, au lieu d'écrire un livre qui parle des problèmes auxquels on est confronté, je voulais en fait offrir des solutions. Et pas des solutions qui sont juste des solutions technologiques, mais plutôt comment développer un nouvel état d'esprit qui permettrait aux Français, que ce soit des entrepreneurs, des sociétés ou même des élus locaux, de pouvoir être agiles, frugales, inclusifs, pour justement à la fois contrecarrer ces crises qui se multiplient et aussi en même temps accélérer la transition sociale et écologique.
Alors, qu'est-ce que Jugad et en quoi, justement, il peut répondre à ces crises?
Alors, Jugad, c'est tout simplement le système D, c'est la capacité de se débrouiller, c'est un peu l'esprit MacGyver. Hein. Et quand on réfléchit à MacGyver, voilà, il se retrouve souvent dans des embrouilles et il est capable de s'en sortir avec très peu de ressources. Hein, et il bricole.
Voilà. Un trombone.
Voilà, un trombone, ça peut être son couteau suisse. Et donc, c'est quelqu'un qui est ingénieux. Donc finalement, Jugad, c'est quelque part une célébration de l'ingéniosité humaine. Et dans la France, qui est un grand pays d'ingénieurs, je dis qu'il faut redevenir ingénieux. Parce que durant Covid, encore une fois, pour moi, Covid a été un don du ciel, parce que ça nous a rappelé, c'était une forme de claque qu'on a reçue, parce qu'on a vu qu'en France, on avait justement son grand réservoir de talents d'ingénieurs, mais on n'était pas capable d'improviser des solutions. Et donc, quand le monde devient de plus en plus imprévisible, on ne peut pas planifier. Et les ingénieurs, en fait, adorent planifier, adorent développer des solutions sophistiquées. En pensant, par exemple, Concorde, on a inventé Concorde, on a inventé TGV, on a construit Tour Eiffel. Tout ça, c'est ingénieur, quoi. Mais quand il faut développer quelque chose rapidement, il faut bidouiller quelque chose, bricoler quelque chose, là, il faut faire appel à notre état d'esprit qui est plutôt ingénieux. Et Jugad, c'est justement l'incarnation de cet état d'esprit ingénieux.
En France, effectivement, on aime bien les circuits de décision un peu longs. Et dans ces moments-là, tels que ceux qu'on a connus pendant le Covid, il faut aller très vite. En quoi le Jugad, permet de dépasser ces circuits de décision, en tout cas de les transgresser?
En fait, le Jugad s'apparente à pas mal de concepts qu'on connaît bien dans le monde des entrepreneurs, que ce soit les Lean Startup ou le concept de Test Learn ou Fail Early, Fail Often. Tout ça, c'est des concepts qui viennent de Silicon Valley, hein, entre autres, qui disent finalement, au lieu de planifier et développer la solution parfaite, je crée un prototype, je teste rapidement sur le marché, je regarde qu'est-ce qui marche. Et ensuite, je peux itérer et l'améliorer de façon incrémentale, quoi. Donc, en Jugad, finalement, on ne vise pas la perfection, on vise la perfectibilité. Ou du moins, on croit en la perfectibilité. Deuxièmement, et ça, j'adore, c'est que de dire finalement, au lieu de penser à un plan A et ensuite un plan B et un plan C pour des contingences, ben, l'idée, c'est de développer la confiance en soi, d'improviser un plan quand c'est nécessaire. Et donc, c'est aussi une façon de dire je peux pas tout anticiper. Par contre, je fais confiance en ma capacité d'adaptation. Donc, encore une fois, je reviens à cet état d'esprit qui est très résilient. Mais le mot résilient aussi est un peu galvaudé et mal compris en France, parce que la vraie définition de résilience, quand on regarde le dictionnaire, c'est quand quelqu'un ou un système qui est exposé à un choc et qui reprend sa forme initiale après une crise. Or, ce que moi j'appelle, c'est la résilience transformative, parce que quand vous êtes confronté à une crise, vous ne cherchez pas à revenir à la forme initiale, vous cherchez à évoluer, à vous transformer en fait. Donc, cette forme de résilience, c'est ça dont on a besoin actuellement en France, parce qu'il y a beaucoup d'une forme d'espoir naïf en France, que la crise actuelle, finalement, ne va pas durer longtemps et qu'on va pouvoir restaurer le passé et revenir un peu au modèle qui existait avant, quoi. Or, le monde d'avant est mort et il faut l'enterrer et il faut résolument se projeter dans l'avenir et utiliser Jugad, justement, pour improviser des solutions qui nous préparent pour demain et des modèles économiques et sociaux qui sont beaucoup plus orientés vers le nouveau monde et non pas essayer de redonner vie à des anciens modèles qui finalement sont non seulement morts mais enterrés, quoi.
Alors précisément, comment mettre en œuvre le Jugad?
Alors dans mon livre, j'offre 6 principes clés pour cultiver cet état d'esprit Jugad. Le premier principe, c'est de pouvoir transformer l'adversité en opportunité. Et je cite l'exemple d'une startup qui s'appelle Ambrea, qui a été fondée par une famille d'agriculteurs et qui avait perdu en fait leur récolte il y a 5-6 ans à cause de la sécheresse. Et au lieu justement de se plaindre, qui est une spécialité française, ou sombrer dans le fatalisme, le papa et sa fille, donc qui s'appellent Julie David Copain, ont décidé en fait de créer une start-up qui développe des ombrières qui permettent aux agriculteurs justement de se protéger contre les aléas climatiques. Et donc ça, c'est un exemple où ils ont transformé l'adversité, c'est-à-dire la crise climatique, en une opportunité pour apporter une solution qui à la fois protège l'agriculteur contre les aléas climatiques Et cerise sur le gâteau, augmente aussi la qualité et la quantité de leur rendement agricole. Donc ça, c'est un premier principe qui vise effectivement à transformer l'adversité en opportunité. Un deuxième principe clé, c'est de faire mieux avec moins. C'est-à-dire, au lieu de se plaindre que j'ai pas de ressources, comment je transforme des ressources existantes en valeur. Deux exemples assez inspirants. Le premier, c'est une start-up qui s'appelle Dracula Technologies, basée à Valence, qui transforme la lumière ambiante en énergie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir alimenter les 50 milliards d'objets connectés qui aujourd'hui sont alimentés avec des batteries, donc qui n'est pas une solution viable, et avec des cellules photovoltaïques miniaturisées qui sont intégrées dans ces objets quotidiens. Ça peut être votre thermostat, ça peut être n'importe quel objet que vous avez avec vous. Cet objet-là est capable maintenant de générer lui-même son propre énergie à partir de la lumière ambiante. Donc ça, c'est un exemple de faire mieux avec moins, c'est-à-dire que je valorise une ressource qui est déjà abondante, qui est la lumière naturelle, pour en générer de l'électricité. Un deuxième exemple, c'est, vous savez que le bâtiment, en fait, pèse 40% des émissions dans le monde. C'est un secteur qui est très polluant. Et il faut aussi savoir que c'est un secteur qui consomme beaucoup de ressources naturelles. Par exemple, le bâtiment consomme 50 milliards, je crois, de tonnes de sable par an. Or, c'est aussi une ressource qui se raréfie. Donc, dans la région parisienne, avec le projet Grand Paris, on va pouvoir réutiliser les déblais de construction parce que le projet de Grand Paris va générer 400 millions de tonnes de déblais. Et il y a un projet qui s'appelle Cycleterre qui va recycler les déblais de construction pour en faire des briques qui peut être utilisé pour fabriquer nouveaux bâtiments. Donc, au lieu d'avoir recours au sable, on peut, par exemple, réutiliser les déchets de construction, si vous voulez, les déblais de construction, pour en faire un nouveau matériau de construction. Et il s'avère que la terre crue a aussi des propriétés, des qualités positives en termes de confort. Donc, c'est pour ça que c'est une solution qui aide à faire mieux avec moins, parce que ça permet au secteur de construction de s'affranchir du sable et du béton et aussi créer des logements qui offrent plus de confort en termes acoustiques et en termes de température.
Concernant toujours le Djougad, dans ton livre, tu insistes sur le fait qu'on a souvent pris le Djougad sous son angle spécifiquement sobriété, innovation frugale et un peu ignorer deux autres dimensions qui sont très importantes selon toi, à savoir l'agilité et l'inclusion. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
En effet, le Djougad, quand on a introduit ce concept en 2013 en France, la motivation, oublions pas qu'en 2013, on sortait à peine de la grande récession de 2008-2009, qui avait laissé beaucoup de séquelles, parce qu'on oublie aujourd'hui, mais au début des années 2011-2012, il y avait pas mal de programmes d'austérité en Europe, et donc les gens souffraient. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait un problème de pouvoir d'achat, de coût de vie dont souffraient les Français. Et donc l'idée, il y a 10 ans, c'était de dire qu'il fallait développer des solutions qui sont frugales, des produits qui sont frugaux, c'est-à-dire qui sont abordables. Et donc, quelque part, au début, il y a 10 ans, l'esprit Djougad consistait à développer des produits qui sont abordables et accessibles.
Cheap,
voilà, low cost, comme on appelait. L'exemple concret de ça, c'était toute la gamme des voitures Dacia, de Renault, qui les ont permis effectivement de capturer un marché qui demandait des voitures neuves à un prix abordable. Donc Renault l'a compris très vite et on a vu secteur après secteur, que ce soit dans le secteur de santé, secteur de l'énergie, secteur de biens de consommation, où les entreprises réalisaient qu'elles devaient développer des solutions qui sont low cost et donc frugaux, plus abordables. Et c'est ensuite qu'est venu greffer la contrainte écologique. Parce qu'il y a 10 ans, d'ailleurs on est en plein dedans, bientôt le GIEC va publier son nouveau rapport, mais il y a 10 ans, il publiait déjà un rapport, mais les gens s'en moquaient totalement. Mais nous, on savait déjà qu'il va y avoir des contraintes écologiques, non seulement contraintes en termes de réduction d'émissions, mais aussi des ressources naturelles comme l'eau, le sable, etc., qui vont se raréfier. Et donc, on a commencé à expliquer que, à partir de 2013, on anticipait que deux choses vont se passer. Il va y avoir une pénurie de ressources, il va y avoir un problème de coût de vie et il va y avoir des tensions géopolitiques, des crises quoi, qui vont se multiplier. Et là, on s'est dit finalement, on a besoin d'aider les entreprises à cultiver un esprit qui les permet d'être très agiles, très adaptables, très résilients et en même temps savoir développer des solutions simples qui sont abordables et accessibles à un plus grand nombre. Et enfin, être inclusif, c'est-à-dire réaliser qu'avec les inégalités sociales grandissantes, il incombe aux entreprises justement d'assumer des responsabilités sociales, sociétales, pour justement inclure les personnes qui sont défavorisées, non pas d'un point de vue de charité, mais peut-être utiliser par exemple des personnes en difficulté dans des usines pour faire du recyclage, par exemple. C'est le cas de Recygo, qui est une joint venture entre La Poste et Suez, qui recycle les déchets du bureau en utilisant des personnes en difficulté. Donc, on voyait ce triptyque qui était agilité, frugalité, inclusion. Aujourd'hui, on le comprend, c'est parce que la réalité nous confirme l'importance de ces trois qualités. Par contre, il y a 10 ans, c'était plutôt la frugalité qui était très originale comme idée, parce que dans un monde d'abondance, c'était un peu contre-intuitif de parler de sobriété, de frugalité à 10 ans. Mais on a, comme je dis, on voyait déjà les signes avant-coureurs de ça, parce qu'on sortait de la grande récession. Et on voyait déjà qu'il y avait les milléniaux qui commençaient à adopter de nouveaux modèles de consommation, comme l'économie de partage, avec BlaBlaCar, Airbnb, etc. Donc on savait déjà que les consommateurs, en quête de valeur et de valeur, plébiscitaient en fait des services comme BlaBlaCar, etc., qui leur offraient des alternatives qui étaient non seulement low-cost et frugaux, mais aussi contribuer à avoir des liens sociaux. Parce que finalement, l'économie de partage, ce n'est pas uniquement pour économiser de l'argent, mais aussi parce qu'il y a un besoin d'avoir des liens sociaux. La même chose avec la ruche qui dit oui, hein, qui s'est développée il y a une dizaine d'années, qui permettait aux consommateurs hein, de se procurer des aliments auprès des agriculteurs locaux, ce qu'on appelle l'économie de proximité. Et donc, je mentionne ça aussi parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de crise. Mais si on remonte dans le temps, vous voyez qu'avec la grande récession 2008-2009, c'est cette crise-là qui avait impulsé l'essor de l'économie de partage avec Uber, BlaBlaCar et Airbnb. Donc, malgré quelques écoles, ou même la ruche qui duit, hein, par exemple, ils sont tous démarrés il y a une dizaine d'années. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu naïf, mais peut-être optimiste. Parce que je me dis que dans chaque crise, on voit la naissance de nouveaux modèles sociaux, nouveaux modèles économiques. Et donc, Jugad, quelque part, c'est cet état d'esprit qui permettra aux entrepreneurs et aux sociétés de pouvoir développer ces nouveaux modèles, en fait, économiques et sociaux.
Quel lien fais-tu entre Jugad et la technologie ? Est-ce qu'il faut s'émanciper des technologies, aller vers des solutions peut-être plus low-tech, ou bien il n'y a pas de contradiction en fait, entre le développement exponentiel des technologies et cet état d'esprit du GAD, parce qu'au-delà de la débrouille, c'est vraiment un état d'esprit adopté qui va peut-être à l'encontre de bien de représentations matérialistes qu'on peut avoir.
Lionel, c'est un point très important et dans mon livre, je suis très content de l'avoir fait, c'est que j'ai inclus un graphique qui montre clairement que le Jugad est agnostique vis-à-vis de l'innovation technologique, en ce sens que le Jugad peut utiliser un spectrum, un continuum de technologies qui vont du no-tech, c'est-à-dire pas de technologie, au low-tech et aller jusqu'au ultra-high-tech. Donc, je vais illustrer tout ça avec quelques exemples très intéressants. Donc, en d'autres termes, je vais vous montrer que finalement, le Jugad, il y a plusieurs cas de figure possibles. Il y a une version qui est totalement low-tech. C'est le cas d'un potier en Inde qui a développé un réfrigérateur conçu entièrement en argile. Alors ça, c'est du jugad, mais totalement, carrément low-tech et même no-tech. Et puis, à l'autre extrême, on voit par exemple une start-up en Inde qui s'appelle AlgoSurge, qui a développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui convertissent automatiquement des images 2D en modèles 3D. Comme ça, des hôpitaux qui font face à des pénuries en termes de budget limité peuvent réutiliser, valoriser les appareils rayons X qui existent déjà au lieu d'acheter des scanners ou des appareils IRM qui sont très coûteux parce que justement, ce logiciel d'AlgoSurge utilise le jugad, c'est-à-dire qu'il est capable, comme des alchimistes, de transformer automatiquement les images 2D en modèles 3D. Et ça, c'est un exemple plutôt high-tech. Donc, je dirais qu'on peut même pratiquer, on parle aujourd'hui même de la science frugale, et qui a été démontrée par l'Agence spatiale indienne, qui a envoyé une mission pour explorer la planète Mars, avec un budget qui est 10 fois moindre que le budget de la NASA, et qui ont compléter ce projet trois fois plus vite, parce qu'au lieu de développer des maquettes physiques de leur sonde, comme l'a fait NASA, ils ont fait ça sous forme de simulation avec des ordinateurs, parce que l'Inde dispose d'un énorme vivier de talents informatiques. Donc ça, c'est un exemple qui montre aussi qu'on peut appliquer l'esprit jugad même dans des domaines scientifiques très avancés. Donc voilà, effectivement, jugad est agnostique vis-à-vis de la technologie et aussi peut se servir du no-tech et même carrément du ultra-high-tech.
Un sujet sur lequel j'aimerais aussi t'entendre, c'est un sujet que tu as développé ces dernières années, ces derniers mois, c'est celui du partage inter-entreprise. Tu as même remis un rapport à Terra Nova. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette nécessité du partage inter-entreprise qui, à mon avis, aussi, comme tu l'évoques souvent, trouve aussi un peu son développement dans l'épisode Covid qu'on vient de vivre.
Absolument. Alors, l'économie du partage inter-entreprise, en fait, s'inscrit dans la même logique que l'économie de partage que toi et moi, en tant que particuliers, ont bénéficié depuis maintenant une dizaine d'années avec Airbnb ou BlaBlaCar. C'est l'idée, en fait, pour les entreprises de pouvoir mutualiser et de partager et de mieux valoriser ensemble les ressources qui sont sous-utilisées. Alors, effectivement, c'est durant Covid qu'on a vu le mérite de ce modèle de partage inter-entreprise. Par exemple, l'entreprise Call Me Open, qui est le plus grand fabricant de masques basé à Angers, a pu faire appel à des compétences d'une autre entreprise qui s'appelle Scania, qui fabrique des poids lourds, situés aussi à Angers. Et l'idée, c'est qu'en fait, cette entreprise Scania a prêté temporairement leurs salariés qui avaient des compétences industrielles à Call Me Open pour les aider à reconfigurer leur chaîne industrielle, le processus industriel, de sorte qu'ils puissent doubler leur fabrication de masques. C'est grâce à ça qu'en quelques jours, Call Me Open a pu augmenter drastiquement sa productivité et a pu fournir en masques toute la France en quelques semaines. Et le président Macron est même allé les féliciter fin mars 2020 pour avoir justement boosté leur production si rapidement. Mais le secret derrière ça était effectivement ce modèle révolutionnaire de ce qu'on appelle de partage de compétences. On parle de partage de compétences, on parle de partage de salariés, il y a plusieurs expressions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui se développent dans le cas de le Pays de la Loire. Ça s'appelle Solution Partage, qui a été mise en place par l'Agence de développement économique de la région. Dans l'agglomération Tours, ils ont créé une plateforme qui s'appelle Hub Eco, qui permet aux entreprises locales de pouvoir mutualiser, de partager leurs ressources, qui peut être des compétences, qui peut être des locaux, véhicules ou même des salariés potentiellement. Donc l'idée, c'est que si vous avez des ressources qui sont sous-valorisées ou sous-exploitées, alors ces ressources peuvent être des déchets, ça peut être des équipements industriels, ça peut être des salariés, ça peut même des clients, propriété intellectuelle. Aujourd'hui, on voit l'émergence alors soit des plateformes numériques ou des communautés qui permettent aux entreprises, particulièrement les PME et les ETI, de justement identifier d'autres entreprises qui ont peut-être des ressources qui sont sous-utilisées et qui peuvent être partagées et valorisées ensemble.
On voit bien ici le lien avec le Jugad. Valoriser la ressource qui n'est pas exploitée ou qui pourrait l'être.
Absolument, parce qu'en fait, le Jugad, c'est dire finalement, je ne gaspille rien. Moi, j'ai grandi en Inde dans les années 70-80. Il y avait une grande sécheresse et tous les jours, il fallait utiliser l'eau qui était rationnée de façon très judicieuse. Donc, effectivement, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, il y a des ressources. Alors, il y a deux choses qui vont se passer, Lionel. Il y a des ressources qu'il faut apprendre à minimiser. Clairement, par exemple, cette année en France, on va tous apprendre à mieux utiliser l'eau, à savoir réduire l'utilisation d'eau et peut-être optimiser l'utilisation d'eau. Mais il faut aussi apprendre à valoriser des ressources peut-être dont on ignore totalement. Par exemple, il y a des plantes endémiques en Occitanie qui aujourd'hui sont transformées en latex naturel pour fabriquer des gants chirurgicaux. Il y a des startups qui se lancent dedans. Donc, en d'autres termes, il y a des ressources dont on est familier et qui se raréfient, comme l'eau, le sable, l'énergie, etc. Mais il y a d'autres ressources dont on ignore la valeur et qui méritent peut-être d'être exploré et mieux valorisé, quoi.
Changer notre regard sur les choses.
Absolument.
Navi, pour conclure cet entretien, ton ambition pour la France?
Mon ambition pour la France est très simple, c'est que je crois beaucoup en ce que j'appelle la République territoriale, c'est-à-dire que je crois que la force et le secret de la France, c'est les territoires. Et c'est pour ça que pendant 8 mois, en 2022, j'ai sillonné toute la France, pour vraiment m'immerger dans les territoires, pour justement comprendre comment les territoires, en fait, sont capables aujourd'hui de mieux répondre à la double urgence sociale, écologique, en justement identifiant, valorisant des ressources locales. Et c'est le fruit de cette recherche et cette immersion est justement ce nouveau ouvrage qui montre que finalement la France se porte beaucoup mieux qu'on le croit, malgré tout ce qu'on entend l'actualité, et que je crois que le renouveau de la France passe par les territoires. Encore faut-il que l'État fasse confiance aux territoires et les encourager à s'autonomiser davantage, d'où le vaste chantier de décentralisation sur le plan économique et politique qui est fortement nécessaire en France et qui doit s'accélérer, à mon avis, dans les années à venir. Donc, je suis résolument optimiste pour la France parce que je crois que les territoires ont toutes les ressources et cet esprit Jugad, justement, pour pouvoir enfin faire entrer la France au XXIe siècle.
Navi, merci beaucoup.
Merci, Lionel.
Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Rétine, le podcast du CJD. Nous espérons qu'il vous a permis de poser un nouveau regard sur l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire ou à partager les épisodes qui vous ont le plus inspiré. Vous pouvez également découvrir nos articles sur www.dirigeant.fr et suivre toutes les actualités du CJD sur nos réseaux sociaux. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast Rétine. À bientôt.
Rétine, regardez l'entreprise autrement.